Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les Mangeux de Puck.
Avec Bruno Gervais, comment ça va, mon ami?
Ça va très bien, toi?
Ça va très bien, merci. Nous autres, on rit en studio puis on a du fun. Mad Max Talbot, comment vas-tu?
Ça va bien, en forme.
Tant mieux, on est très heureux de ça. Les gars, là, on a des sujets brûlants pour vous autres. Il y en a plusieurs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Commençons tout de suite avec celui-là. Zach Bolduc et Joshua Roy. Il y a de la place pour seulement un des deux à Montréal. Bruno.
Ben, non, tu sais, oui, ils ont certains éléments similaires, mais moi, je les vois pas dans une compétition directe et unique et juste entre les deux. Fait que moi, quand j'ai vu ça, il y a juste de la place pour un des deux à Montréal, comme si c'était un joueur d'un qui présente certaines forces ou qui a une façon de jouer que tu peux juste en avoir un dans la formation. Tu sais, j'étais pas d'accord avec ça. Les deux possèdent un excellent tir. Les deux amènent des choses différentes à mes yeux dans une formation. Puis, il y aurait de la place dans une formation pour avoir ces deux gars-là. Mais pour ça, il faut qu'ils convainquent qu'il y a de la place. Puis, ça a été ça, c'est ça qui manque à Joshua Roy présentement. Je pense que Bolduc, dans les circonstances, dans sa façon d'arriver dans l'organisation, lui a sa place. Mais pour ce qui est de Joshua Roy, il y a des opportunités. Sa place, il a passé un peu entre les doigts la dernière année, l'année passée. Et si tu as le Joshua Roy ou à un certain moment où on pensait que le potentiel de Joshua Roy pourrait aller, oui, il y aurait de la place pour ces deux gars-là dans une formation.
Max?
C'est vraiment bon, Bruno.
Oui, je pensais... Oh mon Dieu, il vient de finir son analyse. Pardonnez-moi la petite seconde ici de flottement.
Non. Mais écoute, moi, c'est un petit peu plus vers l'angle de comment que ça va le camp. Je pense que Zach Bolduc, c'est certain, la fin de saison qu'il y a eu la saison dernière, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont le placer. Pour Joshua Roy, j'ai hâte de voir. T'sais, hier soir, ce que je lui souhaitais, moi, c'est de jouer comme si sa vie en dépendait. Puis c'est ça que je veux voir de lui pour le reste du camp. Il va avoir sa chance. Il a sa chance. C'est pas facile. On voit les alignements et tout ça. Donc, moi, c'était plus cet angle-là. T'sais. Est-ce que Joshua va être capable de se tailler un poste dès cette année avec le Canadien? C'est ça. Si les deux le font, parfait. Je suis content. C'est un beau programme. Ça veut dire que Joshua va mériter sa place. Puis il va le faire. Puis je serais très, très content pour lui. Mais moi, c'était plus une chose de performance de ce côté-là.
Fix?
Non, mais je suis bien d'accord. Mais moi, dans le cas de Joshua Roy, là, je veux dire... L'an dernier, Joshua avait sa place. Il pouvait juste la perdre. Il l'avait, là, de prime abord. Il l'a perdu au camp d'entraînement. Et cette année, à date, j'en vois pas assez pour dire qu'il va faire partie de l'alignement du Canadien pour le premier match de la saison. Puis je trouve ça dommage. Cette année, il doit gagner sa place. L'an passé, il avait sa place, mais il l'a perdu. Dans le cas de Joshua Roy, pour moi, il y a une place dans la formation du Canadien pour un des deux. Il y a pas de place pour les deux. Bolduc, c'est sûr qu'il est là de toute façon. Mais dans le cas de Joshua Roy, il n'en a pas assez démontré depuis le début du camp. J'ai pas le choix d'être d'accord avec Max là-dessus.
Ah, merci. Je savais.
Ouais, mais attends une minute. Moi, y a-tu là-dedans que.
Non.
J'avais compris que je disais que Joshua était dans l'équipe.
Non, mais c'est parce que.
Mais t'es pas des mots dans ma bouche.
Max, 1-0 Bruno.
mais Bruno, dans leur style de jeu, à quel point tu peux te permettre d'avoir deux gars comme ça dans ta formation? Je sais que Bolduc, c'est plus un gars qui a un excellent lancer, qui décoche assez rapidement. Je le sais qu'il y a plus de hang dans son jeu qu'un gars comme Joshua Roy qui a des bonnes mains. Mais Joshua, y a-tu vraiment une place pour lui sur un top 9? C'est ça que je veux dire. Tu sais, sur un top 6, je le vois pas là. Y a pas, quand tu regardes l'organigramme du Canadien en ce moment, je le vois pas sur un top 6. Y a-tu vraiment une place pour lui sur un troisième trio?
Bruno, mettons.
Ouais, dans ses compétences, je te parle, dans ses habiletés, là, selon ce que le Canadien recherche là, sur un troisième trio.
Si je peux répondre pendant que Bruno est réfléchi, là, parce qu'il n'a pas l'air sûr, là, je pense que présentement, le Canadien, on en parle souvent, c'est le 12e attaquant. T'sais, c'est qui va se tailler une place dans... Il y a 5-6 joueurs qui se battent pour ce dernier poste-là pour le Canadien. Les autres ont tous des contrats. Alors, c'est qui va garder? Je pense que dans tous les joueurs qui sont disponibles, Joshua, c'est lui qui a le plus haut potentiel offensif. Là, on ne parle pas de Bolduc, là, qui a sa place assurée. C'est lui qui a le plus haut potentiel offensif. Moi, ce que je veux voir de lui, c'est de la constance. Es-tu capable de le faire pour 82 matchs, d'être là, d'être un dangereux, de se présenter, de finir ses mises en échec. Puis Joshua est meilleur défensivement qu'on le pense aussi. Il est capable, il a un excellent bâton. Donc, c'est juste pour moi, c'est de la constance puis d'avoir le couteau entre les dents. Bruno.
Oui, bien, c'est un très bon point, exactement, Max. Joshua est capable. Tu sais, rappelez-vous, il y a quelques années, la première fois qu'il a fait équipe Canada junior, au moins de 20 ans, il était employé sur un rôle de soutien. Il était en désavantage numérique avant de faire son chemin vers un rôle un peu plus offensif pendant le tournoi. Puis, il avait énormément de jump dans son jeu. Il avait beaucoup d'intensité. Il avait été très bon dans ce rôle-là. C'est vrai que c'est de la constance qui arrive. Mais j'ai la misère encore à tisser des liens entre ces deux joueurs très similaires. Tu sais, je trouve que c'est pas la ressemblance idéale, parfaite entre les deux gars. Fait que c'est pas un contre l'autre. Tu sais, Joshua Roy, c'est pas comme s'il regardait juste un Bolduc pour prendre sa place. Lui, il faut qu'il fasse sa place à travers une formation dans la Ligue nationale, de toutes sortes de façons. Là, on l'a vu employé. On voit le Canadien tenter de faire l'expérience de mettre des droitiers avec un bon tir. Sur le point de tir sur réception, en Caulfield sur une unité, puis l'aîné de l'autre, puis de leur envoyer un joueur qui est un joueur pivot, bumper, un gaucher sur l'unité à Caulfield. On a essayé Bolduc, là on essaye Joshua Roy, de trouver ce rôle-là, puis c'est pas évident de jouer ce rôle-là de joueur pivot sur un avantage numérique. Fait, voici une belle opportunité d'amener de la valeur, puis de te rendre utile à l'équipe. On voit bien des gars faire des auditions sur le désavantage numérique. Là, il y a un gros bout là de venir aider, de venir prendre des minutes en désavantage numérique. Je sais qu'on parle de que ce soit de premier, deuxième, troisième, quatrième trio, douzième attaquant, peu importe c'est quoi. Chaque joueur se bat pour ajouter à son temps de glace. Tu sais, un Evans, on le voit sur un quatrième trio présentement, mais il n'y aura pas le temps de glace d'un gars de quatrième trio parce qu'il y a un rôle, parce qu'il y a des utilités. Fait que tu as besoin d'un gars comme ça qui va en prendre de ces minutes-là dans certaines situations. Ça crée des opportunités. Puis j'ai bien hâte de voir qui va la saisir.
Mais les gars, là, je vous écoute parler, puis Joshua, il est capable. Il a le talent il a un talent offensif. Le Max, il a un bon bâton défensif. Capable de remplir des missions, des avantages numériques. C'était effectivement le premier rôle qu'il avait avec l'équipe Canada Junior. On le sait qu'il est capable. Il s'est entraîné fort cet été. Il l'a démontré. On a fait un reportage là-dessus également qui est arrivé en top shape au camp d'entraînement cette année. La question que je vous pose, est-ce que c'est alarmant de ne pas l'avoir vu, de ne pas avoir vu de flash? Il n'est pas ressorti dans les matchs où il a joué, dans les matchs hors concours. Puis en même temps, je fais un ricochet là-dessus parce que là, on est vif ce matin à critiquer énormément de joueurs de l'équipe parce qu'il y en a plusieurs. En fait, on les a presque tous pas vus hier non plus. Est-ce qu'il faut s'alarmer d'un manque d'effort ou, je vais utiliser ce terme-là, d'une invisibilité comme ça, dans le camp d'entraînement, dans les matchs préparatoires? On va commencer avec Max.
Ben écoute, je pense que Martin Saint-Louis a été bon dans sa conférence de presse après. Il dit depuis le début du camp, il considérait qu'il avait un excellent camp. La plupart des joueurs sont restés en ville. Et là, hier, c'était la première journée qui était plus déçue. Moi, j'ai fait le match à RDS hier avec Vincent Danfousse, puis c'était pas un match qui était très fun à analyser. Hein. On se demandait qu'est-ce qu'on va montrer. Tu peux rester quand même positif dans des situations comme ça, mais tu te grattes la tête et tu dis OK, de quoi on parle? Parce qu'il n'y avait pas grand flash de personne. T'sais, le trio qui a travaillé le plus fort hier, c'était le premier trio du Canadien. Puis ça, pour moi, c'est pas nécessairement normal parce qu'eux, ils ont leur place, sont là, ils jouent, ils compétitionnent.
C'est ça.
Puis Nick Suzuki, Krem, il était quand même dans le tapis, pas juste. T'as des mises en échec, des protections de rondelles, ils étaient là. Mais c'est les autres que tu veux voir, c'est eux que tu veux laisser ta carte de visite. Tu sais, je suis là, j'ai joué. Puis c'est ça un peu mon conseil pour Joshua Roy. C'est Krim, est-ce que ça va passer par le Canadien? Est-ce qu'il va jouer pour le Canadien? Je lui souhaite. Mais sinon, il y a quand même des gens qui te regardent dans ces matchs-là. Puis ça, c'est pour tous les jeunes joueurs qui essaient de se créer un poste. Ben, tu sais, laisse ta carte de visite pour tous les autres équipes de Ligue nationale. Les Maple Leafs, là, ils te regardent pareil. Hey, il en a joué une tabarouette, lui. Puis, si t'es pas allé marquer un but, puis que là, ça roule pas avec tes coéquipiers, il n'y a pas de cohésion, va faire une mise en échec. Va. Moi, je disais toujours, là, quand je coachais à San Diego dans les Américains avec Joël Bouchard, je disais toujours, écoute, ton plus grand rôle, on veut voir que tu as joué. Tu sais, que ce soit partir à un scrum à un moment opportun, de faire quelque chose, puis hier, là. Je me grattais la tête, je me dis quel joueur qu'on peut mettre en valeur. Il n'y en avait pas beaucoup. Puis il y a des matchs comme ça, il ne faut pas lancer la serviette non plus. Je lui souhaite qu'il y ait d'autres opportunités et qu'il se présente peut-être avec plus de hargne. Mais ça s'adresse à pas mal de joueurs du Canadien hier.
Bruno, avant que tu répondes, juste avant, le commentaire de Martin Saint-Louis, ça vous a-tu rappelé une phrase? Tu sais, tes parents disaient ça. Je suis pas fâché, je suis déçu. C'est comme la pire affaire, tu peux pas entendre ça.
C'est bien pire, c'est tellement pire. Puis, j'ai aimé que Martin utilise ça. Puis c'est bien plus que juste de se fâcher. Il utilise ça, mais c'est certain qu'un entraîneur, là, quand tu commences la saison, là, tu ressens, tu sais, t'as un certain nombre de cartouches que tu peux utiliser, de moments où tu veux te fâcher, où tu veux faire ce qu'on appelle un statement, tu sais, de marquer, de faire réagir les gars, de piquer certains gars. Il faut que tu choisisses ça. Celui-là, j'ai bien aimé le fait que, regarde, la première journée depuis le début du camp que je suis déçu, parce que je pense qu'il a dit, les gars, il a levé les standards, les gars veulent pousser la note, puis là, whoop, il y a un petit bump dans la route. C'est pas la fin du monde, c'est un match hors concours. Ça reste que, un moment donné, avec le talent qu'il y avait là, la fierté, tu te prépares pour ta saison. Mais là, tu as le message d'un entraîneur. Regarde, ça, c'est décevant. Fait que c'est en dessous des standards qu'ils ont établis. Puis là, c'est de voir qu'est-ce qui va s'en venir. Et on tombe dans la deuxième semaine. On va tomber dans la deuxième semaine des matchs hors concours. Ça lève d'un niveau, là. Là, il y a un filtre qui va se faire. Il y en a qui étaient des suspects plus que des prospects qui vont s'en aller. Et là, le niveau de jeu va lever, les vétérans se remettent dedans, se mettent en forme, l'exécution va augmenter, les erreurs vont paraître encore plus quand on en fait une. Fait que là, c'est là que tu veux voir les gars qui vont être capables de suivre, puis même lever leur niveau de jeu. Puis quand, tu sais, moi, on était à une époque, là, moi, je me rappelle, des fois, c'était 9 ou 10 matchs hors concours. Là, c'est plus ça, ça diminue, puis l'année prochaine, ça va être encore plus court. Fait que tu peux pas en gaspiller des opportunités comme ça.
On a eu la nouvelle que nous autres, on a 3 défenseurs de blessés, mais il y en a 2 qui sont évalués quotidiennement. Il y en a un, on le sait, c'est pour 4 semaines, c'est David Rennbacker qui sera de retour au jeu tout de suite après. Ça va un petit peu moins bien chez les Panthers de la Floride, alors que leur centre numéro 1, le pilier de cette offensive-là, même de l'équipe, Alexander Barkov, vous avez vu la séquence hier certainement, son genou a eu l'air de juste lâcher prise. C'est lui dit, je m'en vais de la pratique, c'est terminé. Et c'est effectivement ce qui est arrivé parce que selon les rapports qu'on a, il serait terminé pour la saison. Les gars, Bruno, on va commencer avec toi. Est-ce que les Panthers vont manquer les séries éliminatoires maintenant qu'ils vont jouer en bon français avec pas de Barkov et surtout, pas surtout, et aussi avec pas de Tkachuk jusqu'en janvier?
Ben, c'était 2 meilleurs joueurs. Puis c'était tes 2 meilleurs producteurs de points par match pendant la saison régulière. Oui, t'as beaucoup de bons morceaux. Tu sais, tu fais le tour, les Verhaeghe, les Bennett, les Reinhardt, Ekblad, Jones, Bobrovsky, Marchand.
Lundell, qui va avoir plus de responsabilités.
Oui, puis c'est un excellent joueur. Fait je pense que c'est une équipe qui va quand même être bonne. Ils ont une cible sur leur dos. Tu es à 3 finales de suite. Ils ont une cible sur leur dos. Fait tout le monde va amener leur meilleur game quand ils vont jouer contre les Panthers à la Floride. Ça va être tout le temps ton meilleur gardien. Ça va être, c'est ton objectif, ta fierté d'essayer des battre. Ils vont vouloir, quand les équipes des compétiteurs vont sentir le sang un peu, là, ils vont vouloir attaquer les Panthers, c'est certain. C'est juste que là, ils sont fragiles. Je ne suis pas prêt à les rayer et les sortir des séries éliminatoires. Mais une équipe qui est à une 3e finale de suite, qui a une charge de travail dans les dernières années immense. Un moment donné, la fatigue, puis t'as beau essayer de te reposer pendant la saison, puis pendant l'entraînement estival, puis t'as recringué pour la saison suivante. Il y a une accumulation de petits bobos, de petites ben oui. choses, et t'es prône à te blesser. Il y a plus de probabilité que tu viennes te blesser dans ce genre de situation-là avec les étés qu'ils ont connus. Fait que, c'est que présentement, c'est très mince. Tout le monde va négocier avec des blessures. On le voit dans le camp du Canadien. Puis le Canadien a été une des équipes qui a été super chanceuse l'année passée. C'est que quand tu pars avec 2 gros morceaux sur du long terme, puis surtout Barkov une saison en entier, c'est qu'après ça, chacune des blessures que tu vas vivre, c'est amplifié x2. L'une d'elles se blesse pendant 3 semaines, tu vas avoir l'impression que c'est fini parce que là, ça devient très, très mince. Puis c'est pas une équipe qui a amassé énormément d'espoir dans les dernières années dû à leur succès. Fait que ça va être, là, présentement, là, sont comme, t'as 2 prises, puis t'as la balle rapide de Reggie Johnson qui s'en vient. Tu peux pas la regarder passer. T'sais, il va falloir que tout clique pour les Panthers pour être capable de revenir en série pour une 3e fois.
Max?
Ouais.
Ben, je crois qu'ils vont. Oui, ça va. Ils vont payer cher de ça, c'est certain. Tu perds du gros leadership, là. Probablement tes deux meilleurs leaders dans ton équipe. Mais ils ont quand même beaucoup de profondeur. Et ça, je crois à ça. Je crois à l'expérience, la profondeur. C'est pas comme une équipe plus jeune qui perd leurs deux plus gros joueurs puis qu'après ça, ils ont rien. C'est une équipe avec beaucoup d'expérience. J'ai dit qu'elle allait quand même faire les séries. Mais cependant, c'est que deux années de suite aussi, le début de saison peut être compliqué parce que il y a la fatigue qui s'installe et tout ça. Donc, moi, je crois qu'ils sont bien coachés. Bruno a raison, parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'espoir, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de profondeur. Et ça, j'aime ça du côté des Panthers. Et j'ai la difficulté à les voir champions de la Coupe cette année, deux ans de suite, et qu'ils ne feront pas les séries l'année suivante, même malgré ces deux blessures-là.
Max, de tes années à Pittsburgh, il y a eu des saisons où Sidney Crosby s'est blessé, a raté beaucoup de matchs en saison régulière. À quel point ça joue dans la balance de perdre ton premier joueur de centre à l'interne?
Ben, ça fait mal et surtout, ces blessures, c'était les commotions cérébrales.
Ouais, exact. Donc,
ça amène encore plus d'insécurité dans l'équipe parce que tu sais pas quand il va revenir. Tu n'as pas de date, tu sais que tu te blesses un genou, tu sais à peu près c'est combien de mois, une épaule, même chose. Là, c'est qu'il y a une commotion cérébrale, il n'y a pas de date, donc ça amène l'insécurité. Mais on avait la chance d'avoir un Evgeny Malkin qui a toujours été meilleur quand Sid n'était pas là. Ça, c'est drôle, quand il y en a un qui se blessait, l'autre avait toujours le relais. Ça nous aidait beaucoup. Et en même temps, tu perds un joueur comme ça, tu te dis, si on peut juste se rendre en série, puis qu'il revient au bon moment, puis Barkov, peut-être sa saison est terminée, on ne sait pas encore, on va avoir des nouvelles, mais... T'sais, on les a vus, ces scénarios-là, que les équipes, ça aide sur le cap salarial, ils peuvent arriver puis se tourner de bord. Mais écoute, moi je crois à l'expérience dans ces situations-là. On l'a fait avec les Pingouins, puis on était toujours capable quand même de se qualifier en série parce qu'on avait beaucoup de profondeur. On avait des vrais, puis on avait de l'expérience.
Ouais, je trouve ça intéressant, les gars. Puis effectivement, les Panthers ont tout un alignement, puis ils ont de la profondeur. C'est pas pour... Ils ont ramené tout le monde l'édition championne, ou presque. Là, ils ont réussi à re-signer tout le monde. Sauf que là, la gymnastique sous le cap salarial pourra pas être faite en séries éliminatoires. Et n'oublions pas, ils ont fait les séries avec 98 points. T'sais, on l'a dit hier, il s'agit juste de 4 victoires de moins. T'es sorti des séries, là. Ça sera pas de la tarte pour les Panthers cette année. Mais cela étant dit, j'ai pas le choix de faire une relation de cause à effet. Est-ce que le Canadien va finir en avant des Panthers cette année dans la division, Bruno?
Ouais. ben, ça dépend, là. T'sais, si on suit le rythme cardiaque des partisans du Canadien après le match d'hier.
Avec ce qu'on a vu hier, est-ce qu'ils vont finir en avant?
Il y en a qui m'ont dit qu'ils pensent que le Canadien va être relégué puis terminer la saison dans la GFQ. Mais c'est pas évident. C'est parce qu'il y a tellement de bémols qu'on essaie de projeter. Puis là, maintenant, le monde s'amuse à clipper ça, tes phrases, puis à remettre ça. Ça vieillit tout le temps mal. C'est sûr que si le Canadien est aussi chanceux que l'année dernière en termes de santé, puis que tout le monde connaît une meilleure saison, ce que tu vois pas à travers la Ligue, c'est tout le monde anticipe, ah, tout le monde va s'améliorer un petit peu. C'est pas la réalité. T'as des gars qui vont avoir une meilleure saison que l'année passée, puis t'as des gars qui vont avoir une saison inférieure à l'année passée, puis t'as des gars qui vont avoir une saison difficile, un bump in the road, une set. Oups, là, ça a glissé cette année, ça n'a pas fonctionné. Blessure, ça colle pas, si ça, peu importe les raisons, même pas son bâton, pas bonne marque, pas bonne coupe, peu importe c'est quoi. C'est que l'année passée, les gars qui ont été en santé puis les gars qui ont connu une excellente saison, une belle progression, c'était tous des joueurs clés. Cette année, si Montembeau, il y a une saison un peu plus difficile puis que Suzuki manque 15-20 matchs, on a un autre scénario complètement. Fait que c'est dur de passer des champions, double champion en titre, à dire hey, le Canadien va leur passer devant facilement. Ça sera pas facile. Je vais y aller avec non dans cette situation-là. C'est sûr que si ça continue comme ça en Floride puis que tout clique pour le Canadien, ça peut se faire. Mais ça reste une très, très bonne équipe quand même en Floride.
Mad Max?
Fait que, si je comprends ce que tu as dit, Bruno, c'est que tu exclus les Panthers de la Floride, donc les Canadiens non plus ne feront pas les éliminatoires.
Bien, dans le fond, moi, c'est que les deux équipes sortent de la Ligue. Ça tombe une Ligue à 30 et on revient. Moi, c'est ça mon scénario, là.
Je voulais te mettre sur le spot, je voulais te faire une déclaration qu'on aurait pu clipper et tourner
sont déjà en train de travailler dessus, les gars, c'est fait.
Ouais. Ben écoute, je me rappelle pas ce que j'ai répondu dans... Mais moi, je vais aller le contraire de ce que je dis, c'est que je pense que les Panthers vont faire les séries éliminatoires, puis je pense aussi que le Canadien va être capable de se qualifier. Je suis pas un gars qui est extrêmement émotif ou qui joue dans les vagues de un match à la fois. Je suis plus un gars qui voit la vision et le développement global d'une équipe. Je pense que les Canadiens vont refaire les séries éliminatoires. Ça sera pas facile. Il va avoir une progression. Donc, je pense que les Panthers vont quand même finir en avant du Canadien, mais que le Canadien va être capable de se qualifier aussi.
D'ailleurs, on va expliquer tout ce qui se passe avec la masse salariale, la gymnastique et tout le reste dans à peu près une vingtaine de minutes avec FX. On a tout étudié ça. Là. On a ouvert la convention collective. FX a fait de la lecture toute la nuit pour vous expliquer ça. Alors, manquez pas ça. Avant de vous laisser aller, messieurs, il faut parler d'un gars qu'on connaît, que vous connaissez surtout très, très bien. Et Max, je vais te lancer là-dessus. Il va y avoir un moment très spécial à Pittsburgh qu'on voit déjà là, en ce moment, mais demain soir, est-ce que ça te fait chaud au cœur? Est-ce que tu vas te déplacer à Pittsburgh? Je ne sais pas, on ne s'est pas parlé, là, mais tu vois ça comment, le fait que Marc-André Fleury fait un dernier tour de piste avec les Pingouins, puis surtout avec ses deux grands chums, Sidney Crosby et Christopher Letang.
Ouais, ben malheureusement, je ne peux pas être là demain. Je suis extrêmement déçu, faute d'horaire, mais... je regarde la télé, je suis les nouvelles. J'ai vu son carrousel contre Sidney Crosby en pratique aujourd'hui. L'ovation qu'il a reçu aussi lors de la pratique. Ses belles pattes jaunes. Écoute, c'est parfait. Et les Pingouins sont parfaits aussi pour. C'est une équipe qui est très active sur les réseaux sociaux, qui vont mettre beaucoup de couleurs dans une année qui va peut-être pouvoir être un petit peu plus sombre du côté des Pingouins. Là. Mais c'est extraordinaire ce qu'il y a la chance de vivre à Pittsburgh pour le match de demain, la pratique d'aujourd'hui. Les gars, ils ont du gros fun et ça donne du momentum à une équipe, ça aussi. Je suis content que les trois monstres sont encore là, le Crosby, Malkin, le temps pour vivre ça avec lui. Tu sais, s'il revenait à Pittsburgh dans une situation où ces trois gars-là seraient plus là, ça serait différent et je pense qu'il aurait probablement pas accepté l'offre des Pingouins d'aller jouer une période demain. Donc, que ces trois bons chums soient là, ça rend la chose encore plus spéciale. Et profitez-en, tout le monde. Regardez le match si vous avez la chance. Puis je faisais une entrevue avec les médias de Pittsburgh la semaine passée. Puis je disais ça aux gens de Pittsburgh aussi. J'ai passé un petit message parce qu'il y a de la grogne. L'an passé, l'aréna n'était pas toujours pleine. Tout ça, ça commence à... Ils voient où que l'équipe s'en va. Mais à la fin de la journée, là... Ils ont encore Sidney Crosby, Malkin, le temps devant les yeux chaque soir. Puis ça, c'est un privilège. Et là, ils vont avoir le privilège de voir Marc-André Fleury porter les grosses pattes jaunes pour une dernière fois devant eux. C'est quand même... c'est historique comme moment demain pour un match pré-saison qui est quand même drôle. Mais c'est historique. Puis on va regarder ça avec une grande attention.
Ouais, coupez pas d'oignons en même temps. Coupez-en si vous voulez tout camoufler. Là. Ça risque d'être assez émotif. Bruno, voulais-tu réagir là-dessus avant qu'on se laisse?
Ben, tu sais, c'est tellement flower. T'sais, combien de joueurs t'as vu signer un contrat d'un jour puis juste aller se retirer comme membre de telle équipe, peu importe? Il y a juste un flower pour aller pratiquer, s'amuser avec les gars, continuer, faire, comme il dit, le two-pad stack à 40 ans puis embarquer pour une période. C'est phénoménal. Fait que je pense qu'on est privilégié dans le monde sportif, de voir ça un moment comme ça. Fait que ça va être le fun à regarder. Puis regarde les bains, là, voler la vedette, faire l'équipe, faire une autre saison. Tabarouette, ça c'est flower. Ça c'est flower, je te dis.
Puis nous autres, puis nos auditeurs, ben on est privilégiés de vous avoir ensemble tous les vendredis. Merci les gars encore une fois. Passez un très très beau week-end. Bon visionnement de ce qui va se passer à Pittsburgh d'ailleurs. Puis on se reparle vendredi prochain.
Bonne coupe,
bon week-end.
Bonne Coupe Riders, on va regarder ça.
Un gros merci, les gars.
Salut, boys.